Bienvenue à cette soirée où nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Dorion. Alors, vous êtes venus très, très nombreux. Je veux dire, j'ai vu plusieurs rencontres avec des écrivains ici, mais celle-là est particulièrement fréquentée. Alors, je pense que ça donne la mesure aussi de la présence d'Hélène Dorion dans la littérature, la poésie québécoise actuelle. Alors, je vous la présente, plusieurs d'entre vous la connaissez, mais à titre de rappel quand même, je pense que ça peut être bien de la présenter. Je vous annonce aussi que cette rencontre est enregistrée. Elle sera ensuite, se trouvera ensuite sur le site de Spiral, donc Radio Spiral, qui, comme vous savez, est le volet radio de la revue, du magazine. Donc après, vous aurez bien sûr la possibilité d'intervenir, poser des questions. Alors je vous demanderai de vous présenter au micro. On ne pourra pas prendre de questions comme ça là, du public directement. Il faut venir au micro. Alors donc Hélène Dorion, elle a eu une enfance et une jeunesse, on peut dire à Québec, au Cégep Sainte-Foy, à l'Université Laval. Elle obtient un baccalauréat en philosophie en 1980. Et elle se trouve assez rapidement liée au milieu littéraire, notamment à la revue Estuaire, dont elle fait partie du comité de rédaction à partir de 1982 environ. Son premier recueil paraît au Norrois l'année suivante, en 83, l'intervalle prolongé suivi de La chute requise. Et l'année suivante encore, en 84, elle quitte Québec pour s'établir dans les Laurentides, son lieu de résidence. Elle enseigne la littérature pendant quelques années, tout en s'adonnant à l'écriture. Il y a de nombreuses activités littéraires. Elle voyage aussi en Europe, notamment autour de 1987 et dans les années suivantes, ce qui mènera à une anthologie de ses poèmes qui paraît au Des Bleus en 1990. En 91, elle est invitée par René Bonenfant des Éditions du Norrois à prendre la relève. Donc, elle va co-diriger les Éditions du Norrois pendant toute la décennie 90, tout en poursuivant toujours de nombreuses activités poétiques, spectacles, lectures, voyages en Europe. En particulier, je pense qu'il faut noter qu'à partir de 1993, elle établit des contacts importants avec les directeurs des Éditions de La Différence, où elle va publier de nombreux recueils par la suite. Et donc, à partir de là, elle s'engage, tout en poursuivant ses activités au Norrois, en y jouant un rôle très important, elle s'engage de plus en plus du côté européen, dans des revues, participation plus récente à des jurys, je pense notamment le prix francophone de poésie Louise Labbé et Léopold Senghor. Par la suite, elle est écrivain en résidence à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Alors, les recueils sont très nombreux. On connaît, j'en mentionne quelques-uns à titre de mémoire. J'ai mentionné le premier, mais Un visage appuyé contre le monde en 1990. L'issue, la résonance, le désordre qui va être réédité à plusieurs reprises. Sans bas, sans bout du monde en 95, pour lequel elle obtient le prix Alain Grandbois de l'Académie des Lettres du Québec. Les murs de la grotte en 98, Portrait de mère en 2000, une anthologie présentée dans Typo en 2002, d'argile et de soufre, donc une sélection de l'ensemble de poèmes tirés de l'ensemble de son œuvre. Ravir les lieux en 2005, à la différence, publié aux éditions de la différence et qui lui permet d'obtenir le prix de l'Académie Mallarmé. Et plus récemment, ce gros livre que vous connaissez probablement, « Monde fragile, chose frêle », qui regroupe toute son œuvre poétique de 1983 à 2000. Donc c'est une somme poétique qui permet vraiment de faire tout un parcours. Je mentionnerai aussi des œuvres de prose, et je vais y revenir tout de suite en commençant cette rencontre. « Jour de sable », récit autobiographique, et Sous l'arche du temps, qui est essai. De nombreux livres d'artistes, enfin je ne penserai pas tous, mais c'est un aspect aussi dont on pourrait parler hein, peut-être en fin de parcours, cette collaboration très fréquente avec des artistes. Je mentionnerai aussi de très nombreuses traductions de ses poèmes dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol, italien, catalan, russe, et quelques autres aussi que j'oublie sans doute. Alors, J'ai pensé, bon, alors j'ai donné, je dois dire, le titre, c'est Manon Plante qui m'a demandé un titre pour cette rencontre, on a l'habitude d'en donner, et donc Passage vers la vision, je pense que pour ceux et celles qui connaissaient son œuvre, c'est assez évident, la notion de passage, de migration, de déplacement, d'itinéraire est très importante, de toutes les manières possibles. La vision, pour moi, c'est également un aspect important, mais disons que dans un premier temps, j'aimerais qu'on parte peut-être... de la référence autobiographique qui est présente dans Jour de sable. Et je demanderais à Hélène peut-être de nous faire entendre un peu, c'est un court chapitre qui, je pense, donne une certaine tonalité, touche aussi plusieurs thèmes qui, à mon avis, sont importants. Alors, donc, Hélène, on t'écoute.
Merci. Mais d'abord, merci d'être là. Ça me fait très plaisir de... vous rencontrer, d'avoir cette rencontre avec Pierre et avec vous. Si je parle pas assez fort, je pense qu'on peut pas monter le son, alors vous me le direz à moi. La vie, immense et complexe matière, pareille au soleil autour duquel elle tourne, s'éteint imperceptiblement. Puis un jour, on baisse les paupières et avec elle, le rideau du temps qui nous appartenait. Qu'est-ce qu'une vie? Comment les événements laissent-ils leur empreinte au fond de nous, tantôt lourde, tantôt légère empreinte des heures, des mains plongées dans la poussière des jours, des pas enfoncés dans le sable. Et ce que voit l'enfant à travers l'espace, et ce que regarde la grand-mère par la fenêtre, sait-on. Des traces s'accumulent, fortement, ils forment une ligne, fine, un chemin, toute une vie avec des rêves comme des barques qui la traversent, vont d'une rive à l'autre porter leur bagage d'espérance et rentrent au port pour y trouver le seul visage qui importe, l'amour. Ciel et terre, enfin rassemblés en deux bras, deux yeux, un seul corps chargé de tous les mondes. Alors, aussi lumineuse que le soleil, notre vie devient ce feu qui éclaire et nous brûle avec lui. Nos rêves d'enfants ressurgissent de la forêt dense. Le petit prince cueille la rose qui habitait parmi les mots. Enfin, on apprend le secret de l'invisible. Du bout du quai, je regarde les bateaux qui partent. D'autres rentrent de ports inconnus, les cales chargées de monde à la dérive, d'histoires sans fin, d'images de beauté sans origine ni destination. Les bateaux ne vont nulle part, me dit mon père. Ils ne font que partir et revenir, me dit ma mère. Et il me raconte les vents contraires, les vagues qui renversent, le fleuve et la mer, l'horizon étale, les ailes des oiseaux qui passent au-dessus. Du haut de mes quelques années, je respire des millénaires de sel. Devant moi se dresse l'étendue, cette perte de vue forcée, comme si la terre n'était qu'une bouche de bleu offerte à la lumière. Les voiles des bateaux en sont la mémoire. Les vents s'y abattent lourdement, ou bien ils s'y glissent et les caressent avec lenteur, les portent vers cet ailleurs qui est leur seule destinée possible. Disséminés derrière moi, les morceaux de l'histoire poussent les uns sur les autres, poussent, tirent et secouent jusqu'aux fondations qui faisaient tenir cette histoire.
Bien, merci. Alors, il me semble que cette page-là fait entendre un grand nombre, on pourrait aborder un grand nombre de thèmes, la complexité de la vie, bien sûr, les traces, le cheminement, l'amour, l'ailleurs, la lumière, le feu. Bon, enfin, les idées sont nombreuses, mais je commencerai par l'idée de fragilité. Évidemment, monde fragile, chose frêle, je pense que ce titre-là rend compte d'une dimension fondamentale dans ton œuvre, Hélène. Fragilité, friabilité de l'être intime, des choses, du temps. D'ailleurs, Jour de sable, le titre aussi est assez éloquent. On a l'impression que déjà là, ça s'effrite, ça peut s'effriter. Fragile fondation de ce que nous sommes, c'est un vers qui est présent dans ton œuvre. Dans Jour de sable, qui est quand même un récit de mémoire, où la mémoire occupe une place importante, la mémoire elle-même paraît friable, en tout cas problématique. Par exemple, tu dis à un moment donné, l'histoire est trouée, remplie de silence, de brèches, d'opacité. Et je pense qu'on pourrait se demander, est-ce que, d'abord, un, quel est le rôle de la mémoire dans ton écriture? Est-ce que pour écrire, il ne faut pas, d'une certaine façon, aussi, à la fois se rappeler, mais aussi oublier beaucoup de choses? En tout cas, c'est ce que disait Rilke, il faut se rappeler et oublier en même temps, d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est pas aussi le statut même de la mémoire qui est, sinon impossible, en tout cas toujours en péril chez toi? Et alors, et pourtant, tu entres dans ce récit tout de même, fragmenté, mais toujours est-il qu'il y a ce travail. Alors,
ben, d'abord, je dirais que pour moi, l'idée de fragilité, elle est vraiment créatrice. C'est pas une idée. La fragilité, pour moi, c'est pas quelque chose qui est menaçant. C'est au contraire quelque chose qui est producteur, qui est créateur. Il y a bien sûr la fragilité de la vie, la fragilité de l'instant. Et disons de façon toute personnelle, j'ai pris contact avec la fragilité de la vie et particulièrement la fragilité du corps très tôt dans mon enfance. Alors je pense que ça a construit aussi une idée du monde, une idée de la vie qui en même temps la rend très très précieuse. Un instant, une journée, pour moi c'est toujours aussi précieux à cause de cette idée de fragilité. Et bien sûr, il y a la fragilité du sens en même temps, puisque mon travail, c'est les mots, c'est la construction du sens. Alors, puisque le sens est fragile, puisque les mots sont fragiles, je pense que l'écriture met en tension à la fois la complexité du langage, mais aussi cette fragilité, cette capacité qu'a le sens de se défaire, mais pour se reconstruire. Et ce qui m'intéresse évidemment comme écrivain, c'est cette reconstruction du sens. Donc pour moi, c'est pas grave que ça se déconstruise ou que ça se fragilise ou que ça s'efface. Parce que justement, le possible surgit de cet effacement. Même chose pour la mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est pas juste avec la tête, c'est pas juste mental, c'est aussi une mémoire de sensation. Quand j'ai écrit « Jour de sang », par exemple, le début du travail s'est fait vraiment par le corps. C'est d'abord mon corps qui s'est souvenu d'impressions, de sensations. Donc, la mémoire, elle est évidemment tout autant dans la chair. Alors, ce souvenir, c'est entrer dans une mémoire qui est faite pas juste de pensées ou d'idées ou d'événements, mais surtout de sensations, d'émotions, en fait, de tout ce dont le corps s'emprunt et est emprunt au fur et à mesure qu'il existe, qu'il vit.
Est-ce que, je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que, tu dis fragilité, tu emploies plusieurs fois ce terme-là, mais est-ce que c'est en fait aussi discontinuité? C'est-à-dire, j'ai l'impression, à la fois d'abord dans la forme de ta poésie, ça c'est assez marqué, tu as une poésie qui est pleine de silence, c'est pas un flot verbal, c'est quelque chose qui est très mesuré. Par ailleurs aussi, le thème de la mémoire, tel qu'il apparaît dans Jour de sang, est lui aussi, on pourrait dire, discontinu. Sans doute, la mémoire est toujours discontinue. Mais est-ce que pour toi, la poésie est une manière, si on veut, ou d'un côté, pas seulement la poésie, mais toute ton approche de l'écriture, est une manière de donner congé au récit, si on veut, de s'en départir, peut-être parce que le récit parvient pas à rendre compte de ce qui est essentiel pour toi.
Non, pas dans ce sens-là, non, pas vraiment. Disons que pour moi, la mémoire n'est pas forcément liée à la vérité. Elle est liée au souvenir, elle ne restitue pas la vérité. Et dans ce récit, précisément, pour moi, il ne s'agissait pas de raconter une vérité. Parce que...
Quand tu parles de l'encyclopédie médicale de ton père, par exemple, je trouve que c'est un passage assez savoureux où tu dis...
Ça,
c'est la vérité. Il y a des moments comme ça qui produisent, en tout cas, un effet de vérité qui, dont on se dit, voilà, elle l'a vécu, elle a découvert.
Je vais donner un autre exemple. Par exemple, il y a un chapitre qui raconte un incendie. Oui. Alors, dans la construction générale du livre, ça s'est fait un peu comme ça, mais ça s'est construit autour des éléments. L'eau avec la mer, le feu, la terre, etc. C'était pas voulu, mais tout à coup, la mémoire, même pour un récit, s'est construite autour d'éléments, de ces éléments fondateurs essentiels. Donc, avec le feu, je racontais par exemple des manuscrits que quelqu'un écrivait et qu'il brûlait une fois par année, Kafka, enfin, différentes anecdotes comme ça autour du feu et de l'écriture. Et ça m'a ramené à un événement de l'enfance où il y avait eu un feu, en fait, dans l'appartement de mes parents, où j'habitais avec mes parents. J'étais toute petite et je raconte le feu avec ma mémoire. Et après, ma sœur ou mon père, je sais plus, mais après avoir lu, me raconte un tout autre feu. C'était pas du tout ce feu-là. Et de toute façon, je ne voulais pas écrire une autobiographie. Je voulais, à partir d'événements que moi j'avais vécu, explorer ce qu'est la mémoire, justement, et ce qu'est le récit quand on le confie à la mémoire. Et ce qui est important, c'était justement cette déconstruction des événements. Il y a par exemple le fait d'aller au bord de la mer. Un même événement, le voyage, le trajet jusqu'au bord de la mer, je l'ai raconté plusieurs fois. Le raconter plusieurs fois, mais à partir d'un même point de vue narratif, qui donne des réalités différentes. Dans un autre type de narration, on peut avoir différents angles, différents personnages qui vont raconter un événement de façon, et ça va donner d'autres événements, carrément d'autres réalités. L'important pour moi, c'est plutôt d'explorer les possibles de la réalité. Et même les possibles, évidemment, bon, je pense à la théorie quantique, par exemple, qui est cette création de la réalité et du présent au fur et à mesure. Mais on pense pour ça au présent et au futur. Si on reporte cette théorie même dans le passé et si on l'applique à la mémoire, on se rend compte qu'elle fonctionne encore. Elle est encore là parce que la mémoire est fragmentée et je réécrirais ce livre, je le réécrirais de toute autre façon. Je raconterais les mêmes événements, ça donnerait toute autre chose au bout. Et c'est évidemment l'intérêt de l'écriture parce que c'est pas une autobiographie, disons, pure et c'est pas cet élément-là qui est important d'une part. Parce que je mettais, en fait, les événements et je les regardais, disons, agir entre eux, résonner les uns avec les autres sur un axe de temps, donc à l'horizontale, comment tel événement, la mort de Kennedy par exemple, résonne avec d'autres événements vécus à la même époque, à la même période, et sur un axe vertical, au niveau de, disons, l'histoire universelle, donc comment la petite histoire d'une enfance, somme toute assez banale, j'ai pas écrit ça parce que je trouvais que mon enfance était extraordinaire ou moins banale que celle de quelqu'un d'autre, mais comment des événements d'une histoire individuelle et des événements somme toute assez banal, rencontre d'autres événements de l'histoire universelle. Alors, par exemple, il y a l'hôpital qui rencontre Giordano Bruno enfermé dans un cachot. Les images d'un enfant enfermé dans une chambre d'hôpital peuvent résonner avec cette autre dimension. Le premier homme qui marche sur la lune, on regarde, etc. Donc, pour moi, c'est de voir s'entrechoquer des éléments et voir un peu ce que ça va donner au bout. C'est ça, pour moi, l'intérêt aussi de l'écriture, la création, justement, de possibles.
C'est sûr, le thème de la mémoire, donc, pose aussi plus largement la question du rapport au temps, qui est un thème très important. Or, là, tu dis, par exemple, dans « Sans bord, sans bout du monde », nous ne sommes pas faits pour la durée. Donc, on entend peut-être un peu ici Cioran ou quelques autres. Alors, sûrement qu'une question que ça fait surgir, c'est est-ce que, pour toi, nous sommes des exilés dans le temps? Alors, notre rapport au temps est quand même d'un côté fondamental, mais de l'autre, chez toi, il est questionné, en tout cas, ça c'est sûr. En même temps aussi, il faut le dire, qu'au tournant des années 2000, tu entreprends, mais surtout dans les murs de la grotte, une sorte de remontée du temps, une sorte de toutes sortes de quêtes, on peut dire, archéologiques de l'humain, qui donc pose à nouveau et là réinscrit un désir. Alors, est-ce que c'est une reconquête de la durée ou, en tout cas, il me semble que ce rapport-là est complexe, toi, ce rapport au temps. Tantôt discontinu, tantôt même peut-être vécu comme exil, enfin.
Oui, mais je pense que à partir de, disons, de cette conscience de la fragilité, il y a effectivement un rapport au temps qui se construit, qui est assez, qui est quand même une mise en tension de du périssable et, disons, de l'éternel, de la quête d'un absolu. À partir du moment où il y a la quête d'un absolu, il y a une sorte d'éternité, de désir d'éternité des choses par rapport au périssable, un peu comme, disons, transposé au niveau du lieu, c'est un peu la mise en tension de l'ici et de l'ailleurs. Donc, pour moi, c'est un peu de... Je pense que dès que j'ai commencé à écrire, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était cette réconciliation des contraires. Ayant conscience du périssable, du fragile, de la fragilité, de la vulnérabilité, pour moi, c'était de mettre ces éléments-là, parce que comment les traverser, comment traverser la conscience de la fragilité et le fait qu'être au monde, c'est être périssable. Et puis là, je parle pas de façon mentale, mais vraiment de façon existentielle. Là, tout à coup, prendre conscience du temps qui passe, des choses qui périssent, non pas seulement se transforment, mais meurent. Alors pour moi, c'est de les traverser en essayant de les explorer par rapport à leur contraire. Alors là, le temps, l'éternité, la lumière, l'obscurité. Et je pense que c'est ce que j'ai fait notamment dans ce livre, Les murs de la grotte, en prenant encore là, c'est un peu le pendant de Jour de sable d'ailleurs au niveau de la poésie, l'histoire individuelle par rapport à l'histoire universelle. Aller voir comment... Par exemple, à l'intérieur d'un être humain résonne l'image disons, du premier homme qui a levé les yeux vers le ciel et qui a pris conscience de cet univers inatteignable, inaccessible, périssable, qui lance des flèches d'infini. Alors, nous, on porte, je pense, tout le passé, non seulement de l'être humain, mais aussi de l'univers. Alors, j'ai essayé de voir comment ça pouvait résonner. Je vois, en vous le disant, comme c'est un projet ambitieux, là. C'était sûrement moins que ça quand je l'ai écrit.
Mais en t'écoutant, tu as employé plusieurs reprises le mot périssable, et là, je dois dire, c'est une question qui me vient comme ça... Le périssable, évidemment, nous renvoie à notre condition de mortel. Or, me semble-t-il, mais tu me corrigeras si je me trompe, il me semble que la mort n'a pas une présence particulière dans ton œuvre. Il n'y a pas, je dirais pas, en tout cas moi je le sens pas comme lecteur, qu'il y ait une véritable angoisse de la mort. On a l'impression plutôt que le périssable peut-être donne lieu à une volonté de... Bon, d'élévation vers la lumière, d'une façon de peut-être la transcender, cette condition-là, mais oui, pas oui. D'affronter, la, si on veut, la...
Mais, c'est-à-dire l'affronter par son contraire, en fait.
Oui, tout à c'est fait. Une manière de l'affronter, mais oui. Je veux dire, en la combattant aussi, ou en tout cas pas en la combattant,
non.
Mais en la sublimant.
Non pas non du plus. Tout, parce que je pense qu'on peut définir la mort par la vie, comme on définit la vie par la mort. Là, c'est vraiment toute une mise en tension, une mise en parallèle d'éléments qui se rencontrent. Mais effectivement, moi, ce qui me retient davantage, oui, c'est la vie, c'est les possibilités, c'est cette quête de sens, cette quête d'absolu. Et pour moi, le sens, je l'ai plus exploré du côté de la vie que de la mort, oui. Mm-hmm.
Peut-être que l'image du vent, d'ailleurs, qui est si présente dans ton œuvre, dit un peu ça, c'est-à-dire que tu es du côté du vent, tu es du côté du souffle de vie, plus que du côté d'un affaissement vers, ou d'un effroi face à la condition, à notre condition périssable, dont
oui.
Tu parles aussi par ailleurs.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça tient probablement à une foi dans la vie, une capacité d'espérer, de croire en l'être humain, en la capacité aussi de l'écriture de pour moi de donner sens justement à la vie qui fait que je vais être davantage tournée de ce côté-là que vers la mort. Mais c'est vrai que mon trajet, ma démarche et mes préoccupations sont vraiment davantage de ce côté-là, du côté de la lumière. Oui.
Alors, une autre tension ou deux pôles, si on veut, que tu as d'ailleurs évoqué dans ton discours tout à l'heure, mais en passant un peu vite, et on peut peut-être le reprendre. C'est présent aussi dans Jour de sable, mais là, je pense qu'on peut dire que c'est général dans ton œuvre. C'est la tension entre l'ici et l'ailleurs, entre peut-être l'habitation et la migration. Je serais porté à dire que ton œuvre est vraiment... on pourrait la classer, si le terme n'avait pas un autre sens au Québec, dans les écritures migrantes. Pour moi, l'expérience de la migration est fondamentale. Dans Jour de sable, d'ailleurs, ça me frappait de voir que Québec, la ville de Québec, quand même, puisque c'est ça... Bon, est assez peu présente, mais elle est surtout présente comme point de départ, c'est-à-dire voyage en Gaspésie, voyage dans le bas du fleuve, sur la côte du Maine. Les livres, dis-tu, les livres d'école ou de collège parlaient de la Grèce, de Rome, de la France, d'une foule de lieux lointains qui, d'ailleurs, dans le livre même, te font dire que l'ici était très peu présent là-dedans. Et donc, je te dirais... Pour toi, le mot ici, comment tu le perçois, comment tu le définirais? Est-ce qu'il y a un ici ou est-ce qu'on est toujours, comme d'ailleurs par rapport au, peut-être exilé dans le temps, mais aussi toujours exilé par rapport à un ici? Parce que c'est un peu paradoxal, t'as un goût pour la vie, mais en même temps, en tout cas, il faut aller ailleurs, il faut aller vers le plus vaste.
Mais pour moi, c'est pas paradoxal, non, c'est pas contradictoire, non, au contraire, c'est comme enrichir l'ici de tous les ailleurs qui sont possibles, un peu, je dirais, comme ce qui me semble intéressant, par exemple, dans une maison, c'est les fenêtres. C'est-à-dire ce sur quoi la maison donne beaucoup plus que les murs qui la limitent. Alors, disons que la maison, c'est l'ici, je dirais un peu la même chose. Pour moi, l'ici est à la fois tout à fait essentiel. Tout ce qui fait l'ici, tout ce qui constitue l'ici, c'est quand même le pari de l'être humain. Ça fait partie de notre incarnation. On est ici. Et... l'instant, le lieu, la réalité, tout ça fait partie de notre point d'ancrage. Mais il y a effectivement toujours cette tension vers l'ailleurs. Il me semble que notre ici s'enrichit constamment et pas un point fixe et pas figé, mais s'enrichit constamment de tous les ailleurs, petits ou grands, qu'on lui apporte et à partir desquels on le nourrit, que ce soit évidemment des lectures, des lieux extérieurs, tout c'est un peu ça aussi avec les livres que je citais. Et pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas figer un ici, mais plutôt de l'ouvrir vers des ailleurs qui vont constamment le redéfinir, d'où j'imagine l'idée de migration, c'est-à-dire aussi de transformation. Ce qui m'intéresse, c'est comment l'ici se transforme. Mm-hmm. Mais encore une fois, avec l'idée de ce périssable, je pense par exemple à Rilke dans la 9e élégie, parce qu'être ici, c'est beaucoup et il nous concerne, nous, plus que tout. Et pour moi, ça a été, je l'ai mis en exergue d'un livre parce que ça a été extrêmement important, probablement parce qu'il y avait cette tension vers l'ailleurs ou vers une sorte d'absolu ou d'infini dans la quête qui est la mienne. Alors pour moi, l'ancrage dans l'ici a été d'autant plus important, mais je l'ai défini à partir de ces ailleurs, pour pas le limiter, pour pas le fixer, pour qu'il reste toujours mobile. Je pense que moi, je suis très attachée au mouvement pour que les choses puissent toujours rester en vie, continuer à vibrer. C'est plutôt la fixité qui me fait peur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas plus encore, il y a une phrase que je trouve assez fulgurante, je veux dire, il y a certaines phrases dans ton œuvre qui, à mon avis, condensent d'une façon extraordinaire un certain rapport au monde, et pour moi, cette phrase-là en particulier, qui est dans Un visage appuyé contre le monde, je la retiens parce qu'elle dit quelque chose en même temps de complexe, et il me semble qu'elle dit quelque chose qui n'est pas uniquement que l'ici, il faut dépasser l'ici, aller vers l'ailleurs, l'enrichir d'ailleurs, mais qu'il faut aussi s'arracher à soi-même. La vie m'arrache doucement à ce que je suis, me devient habitable par ce qu'habiter. C'est une phrase que je trouve intéressante parce qu'elle soumet l'habitation à un arrachement à soi. Ce qui, pour beaucoup de personnes, pourrait être un peu paradoxal, là, quand même, parce que dans beaucoup de cas, on a l'impression qu'il faut... Beaucoup de gens vont définir l'habitation en termes d'un retour à soi. C'est un peu ça chez Miron, dans L'homme rapaillé, le poème est mineur, c'est « Je reviens ». Bon, il est allé, voilà, la bracadabra, puis il revient. « Je suis arrivé à ce qui commence », mais en termes d'habitation, qui est une sorte de coïncidence avec soi. Toi, on a l'impression que pour toi, il faut qu'il y ait un peu une dépossession de soi-même. Pour. Et là, quand tu dis « il me devient habitable parce qu'habité », et j'en avais dit un mot dans le texte de présentation d'Argile et de Soufre que j'avais beaucoup aimé faire, je dois dire, et je me demandais si j'avais raison de dire que la vie habitée, dans ce cas-là, c'est pas seulement la vie qu'on habite, mais c'est la vie au sens, quand on dit une personne habitée par une passion, c'est-à-dire animée par une passion. Mm-hmm. Enfin, je sais pas ce que ça trouve de résonance en toi, mais enfin, il me semble qu'il y a cette nécessité, en tout cas, de sortir de soi, de s'arracher à soi-même, comme tu dis ici.
Oui, effectivement. Et là, c'est évidemment en résonance avec une démarche intérieure. C'est-à-dire, c'est pas de se désancrer des choses et de soi-même, mais au contraire, d'aller à la rencontre d'un centre qui appelle à une forme d'abandon aussi. Cette phrase, ce vers renvoie vraiment à l'expérience de l'abandon, être capable de sortir de soi, c'est-à-dire de sortir parfois du plus petit de soi aussi, de cette espèce d'agitation intérieure et, bon, évidemment extérieure, qui est la nôtre, cette espèce de superflu qui parfois nous retient comme des amarres aussi, nous amarre en nous donnant un poids qui n'est pas forcément nécessaire pour aller réellement à la rencontre de soi-même. Donc là, effectivement, il y a ce paradoxe du dépouillement et l'habitation. Oui, je pense que c'est aussi dans cette résonance, disons, plus, appelons-la spirituelle, peut-être.
Mais en fait, d'une certaine manière, on peut dire que ton mode d'habitation, c'est largement, en tout cas dans tes poèmes, le déplacement, justement.
Oui.
C'est de cette manière-là que tu habites.
Oui, c'est vrai.
Mouvement.
Oui, je
plus
pense
qu'en
que...
sédentarité, sauf
ah, oui,
peut-être
oui,
vers les recueils,
vrai.
vers
juste
la
le
fin,
mot.
d'en ravir les lieux. Sauf peut-être d'en ravir les lieux, où là, on retrouve des images plus, bon, la chambre, etc., des images, mais autrement...
Mais c'est, et c'est pas juste extérieur. C'est-à-dire que, pour moi, l'élément fondateur d'être au monde, c'est vraiment la transformation. Et la transformation, c'est le mouvement. Et pour moi, l'origine de la vie, c'est le mouvement. Alors, si je suis en contact avec la vie et même avec l'origine, et je me rapproche de ce centre, si je suis en mouvement, qui n'est pas une agitation, encore une fois, qui est vraiment un mouvement, c'est-à-dire être capable de transformation, d'aller vers ces possibles qui se crée à chaque instant, à chaque minute de notre vie. Il y a une foule de possibles. Alors, on peut évidemment fermer toutes les portes, toutes les fenêtres et rien voir de tout ça. Ou encore aller vers cet inconnu et rester en mouvement, rester en transformation aussi, parce que ce que tu évoquais tout à l'heure, tout ça, cette espèce d'espérance que je peux avoir, c'est aussi une espérance profonde dans la capacité de transformation de l'être humain et de tout ce qui est au monde. J'évoquais la physique quantique tout à l'heure. Je continue d'être émerveillée par le fait que ce qui est apparemment fixe est en mouvement. Pour moi, je pense qu'à partir de là, quand on a constamment conscience de ça, il me semble qu'on ne peut plus vivre de la même façon. Ce qui est apparemment immobile ne l'est pas. Alors, il me semble que moi, comme être humain, c'est vrai que la fixité, l'immobilité, là, c'est comme si pour moi, la vie était étrangère à ça.
Il me vient l'idée de mettre en rapport le terme que tu as employé, transformation, avec un autre. Et là, on va retrouver, il me semble, une autre tension, une autre polarité qui est quand même, qui est peut-être aussi un peu paradoxale. C'est que un mot qui est très présent dans toute ta poésie, toute ton œuvre, c'est le mot « recommencer ». Et c'est frappant que dans « Jour de sable », d'ailleurs, tu te réfères à Camus, au mythe de Sisyphe, souvenir de jeunesse, mais évidemment, Sisyphe en tant que l'homme qui recommence, qui est voué à recommencer. Tu dis aussi, dans, je me souviens pas dans quel recueil, mais c'est un recueil des années 90, « Le commencement est en nous depuis toujours », et je pense que ça va dans le même sens. D'une certaine manière, c'est plus l'idée de recommencement qui est présente que celle de commencement qui a été, je dirais, très présente chez les poètes de la génération de l'Hexagone. Enfin, l'idée de naître, de commencer, etc. Chez toi, au contraire. Alors, on pourrait y voir un fatalisme ou un désespoir. Bon, mais pas du tout, je pense. Comme chez Camus et comme chez Nietzsche, je pense, moi aussi, on dirait que tu vois plutôt la possibilité d'un retournement positif. Et pour moi, cette phrase-là aussi est intéressante, puisque à partir de ça, tu conclus cette idée de recommencement, puisque une sorte de perte de sens aussi, puisque la vie n'était rien, elle devait être tout. Et alors, la question que je me pose, c'est dans ça, dans ce modèle-là, l'idée de transformation, qu'est-ce que c'est au juste? C'est-à-dire, est-ce que la transformation n'est pas la contradiction du recommencement? Est-ce que commencer a un sens, vraiment? Ou est-ce que, en d'autres termes, est-ce qu'on arrive à un renouvellement ou si on vit plutôt dans une spirale ou dans des cercles? Je ne sais pas. Et l'écriture aussi pose cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que l'écriture est en progression ou si elle est, en train de... Et c'est vrai que c'est vrai de ta poésie, il y a vraiment une exploration de motifs qui sont obsédants, la lumière, le vent et plusieurs autres, qui sont peut-être un incessant retour au même, mais qui n'est pas le même non plus. Qui est non. Bon.
C'est ça, oui. disons, pour juste partir du mythe de Sisyphe, souvent on a lu le mythe de Sisyphe de façon un peu négative, en disant le pauvre, la pierre descend, il doit recommencer. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a semblé intéressant parce qu'il y avait la possibilité justement de remonter. Alors, c'est d'un côté ou de l'autre, mais je pense que ça, c'est aussi une idée encore là qui est créatrice. Et le commencement, pour moi, est déjà porteur. Et le recommencement, c'est pas forcément dans le sens de Nietzsche, parce que Nietzsche était plutôt l'éternel retour, donc l'éternel retour du même. Et moi, c'est pas vraiment dans cette perspective-là. Pour moi, le recommencement, c'est comme si on mettait des possibles tout près et dès maintenant. Donc, je peux, à chaque moment, non seulement commencer, mais recommencer. Parce que des fois, quand on regarde derrière, il peut y avoir une sorte de lourdeur, des pas un peu croches, des événements. Si on prend dans une perspective, disons, d'apprendre à être, d'apprendre à vivre, d'apprendre à aimer, tout ça, pour essayer justement de se défaire d'un certain poids, je pense qu'il faut voir les possibilités. Non seulement de commencer, mais de toujours recommencer. Et ça, pour moi, c'est justement par ce paradoxe, il n'y a pas de commencement. Le commencement, c'était « il n'y a pas de commencement », le commencement est en nous depuis toujours, donc oui. Il est toujours disponible, il est toujours là, et les choses ne viennent pas de l'extérieur, mais ils viennent de l'intérieur. Et pour faire surgir les commencements et les recommencements, ils sont à l'intérieur de nous, toujours là, toujours possible. Donc, c'est vraiment dans cette dimension, en fait.
Alors, j'avais dit au début, puis j'aimerais qu'on en arrive à ça, passage vers la vision, ce titre-là m'était venu en particulier d'un vers, mais j'ai ouvert tout à fait par hasard à lire les lieux, je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais trouver comme titre, et je tombe sur ces deux vers, tout à fait par hasard, qui sont simples, j'assistais au paysage, je commençais à voir, mais c'est quelque chose donc qui... Je trouve ça intéressant, ce « commencer à voir » qui surgit quand même après un grand nombre de recueils. Et ça m'a ramené évidemment aussi au tout premier vers de ton œuvre, de toute ton œuvre, qui concerne aussi le regard ou la vision ou le voir. La fissure tient lieu de regard. Bon. ça pose la question aussi, parce que là, il y a regard, puis il y a voir, et voir, il peut y avoir aussi vision là-dedans. Je trouve que ça pose le rapport entre la question du rapport entre le visible et l'invisible, qui est quand même important chez toi. Et il me semble que pour ça, j'aimerais ça peut-être que tu lises quelques poèmes de... Parce que ça peut nous amener aussi à toute la question théosophique, gnostique, mystique, qui est quand même très présente aussi. Et il me semble que dans Portrait de mère, il y a peut-être quelques textes qui pourraient nous faire entendre cette quête-là.
Oui. Alors, le premier poème, c'est extrait des murs de la grotte, et les trois suivants, c'est ça, de Portrait de mère. Le jour décline, et l'arbre, enchâssé dans ses ombres, presse la mince couche de bleu. Si maintenant je lève les yeux et veille, tels ces blessés qui fléchissent, au portail des étoiles, si je lève les yeux, peut-être approcherai-je aussi de cette destinée, légère ascension dans l'espace désolé. Et le vent, maintenant le vent sur la pierre oubliée qui s'attarde, elle tombera bientôt dans le magma d'autres pierres. Ruine, ruine, disséminée dans l'histoire, géométrie compliquée d'un monde plongé dans la joie douloureuse du temps. Saurais-je aussi me jeter en moi-même, comme en un puits, et sans filet, consentir à cette ombre qui pointe vers d'autres lumières. Le soleil monte, la brise se tait, le bord du ciel demeure pur. Un premier navire s'éloigne, blanche voilure qui batte et pareille aux vagues se froisse. Quelle destinée, quelle mesure du vent, de l'obscur et du temps, quel espoir. L'un après l'autre vont les navires, chacun vers l'inconnu qu'il révèle. Chacun rameute son poids de questions, comme reflue et se délie les nuages dans la tempête. D'où cette terre, ce rivage du bout de l'âme que l'on touche. Le voyage secoue mon corps, mon cœur. Ce qui meurt me brûle, et je ne sais encore brûler du feu de ma vie. Du haut de la montagne, l'horizon se révéla. Montagnes encore, plus haut que mes pas, plus loin que ma vie. Il me fut demandé de consentir à l'obscure matière que forme la lumière. Ainsi la lente métamorphose, l'argile d'où surgissent l'or et le souffle. Je regardais vaciller la lune derrière l'arbre. Le faible passage de la nuit sur mon visage révélait l'intacte solitude de l'âme comblée dans l'attente. Ultime marée la ramenant au port. Aucune aile ne cisèle le ciel, ce qui fut créé demeure. La chair sera poussière, transmuée par le voyage où s'achève montagne et l'horizon silencieux. Tout ne fut qu'un rêve. Ce visage perçant les voiles, c'était la nuit. L'illusoire paysage où nos pas se rejoignaient, soudain disparut. Le chemin se referma, et avec lui la douleur, de l'ombre l'irréversible mouvement. Et tu rêvas encore. Ce fut l'amour, un seuil par-delà portant tes voyages, tes vies immergées dans l'ailleurs où se dissout le passage. Tu rêvas encore. Tes yeux se rouvrirent, et le monde, sans pesanteur enfin, cendre sur l'aile, le halo du temps, devint vaste et nouveau.
Le monde sans pesanteur enfin devint vaste et nouveau. Je pense que ça donne une certaine tonalité, une certaine ouverture. Ce que je te demanderais, c'est quand tu dis je commençais à voir, est-ce que c'est l'accès pour toi à enfin la vision au sens peut-être justement plus gnostique ou mystique? En d'autres termes, est-ce que finalement le voir se dirige toujours vers l'invisible, qui est peut-être qui est dit dans le mot lumière, qui est peut-être une forme, enfin, sinon d'invisible, en tout cas un accès à quelque chose d'autre que le monde regardé concrètement dans ses objets. Il y a des poésies quand même qui sont, et on en trouve même dans la poésie contemporaine au Québec, je pense à Robert Melançon, Louis-Jean Thibault, on pourrait donner plusieurs autres, qui nous laissent penser qu'il y a comme un monde préexistant au poème qu'on regarde et qui ensuite se transpose dans le poème. Et c'est une démarche qui existe aussi dans la poésie. Dans ton cas, j'ai l'impression que Il y a un constant dépassement du regard au sens le plus concret vers la vision. Pour toi, qu'est-ce que ça recouvre, ce voir, et que voit le poème, si on pourrait se demander ça aussi. Que donne à voir le poème, ou en quel sens le poème est-il accès à cette vision?
Ben, effectivement, il me semble que le visible n'est qu'un, disons, une porte d'entrée vers l'invisible. Mais encore là, bon, l'invisible, ça peut être beaucoup de choses. Quand tu dis une dimension
gnostique, mystique
ou tout ça, chacun
aussi,
chacun, c'est quand même assez différent. Chez les gnostiques, par exemple, il y aurait l'espèce de rejet de la matière, et moi, je me sens pas du tout proche de ça. Quand on dit mystique, là, c'est une référence au mystère, mais dans le sens très large, parce que quand on utilise un peu tous ces mots, il y a comme une espèce de chute, là, puis on arrive presque dans
je
la...
Veux,
la
ouais. Si je peux dire, t'interromps.
On est à côté de la religion, là, c'est toujours un peu...
Disons que je le fais aussi parce que tu cites en épigraphe à Portrait de mort, Jacob Boehme, évidemment, qui est un des grands maîtres à penser du courant théosophique et tout, et qui a beaucoup inspiré les romantiques. Je me disais, c'est sans doute qu'il y a quelque chose là, sans te classer.
Mais ça, c'est différent déjà. C'est différent déjà. Oui. C'est-à-dire, l'approche théosophique, là, elle est déjà beaucoup plus englobante, elle est déjà beaucoup plus large, elle est ouverte. Il y a une espèce de principe universel, un peu proche de Spinoza, d'ailleurs, cette sorte de substance indéfinie. On ne nomme pas de Dieu. Donc là, oui, effectivement, pour moi, c'est plus proche. Dans la mesure où l'écriture et même la vie est une sorte de quête de sens, je pense que le visible déborde vers l'invisible, mais c'est aussi, bien sûr, il y a des liens pour moi très très forts et omniprésents, notamment avec Boehme, avec l'approche théosophique, avec disons cette rencontre avec le mystère. On peut dire mystique parce que mystique vient à la fois dans l'étymologie, si je ne me trompe pas, du silence, quelque chose qui est tu, et à la fois le mystère. Alors, je pense, quand on écrit un poème, quand on lit un poème, il me semble qu'on va à la rencontre du mystère. Mais quand on regarde un coucher de soleil, on va aussi à la rencontre du mystère. Quand on fait le point sur sa vie, on va d'une certaine façon aussi à la rencontre du mystère. Donc, c'est quand même aussi, ça peut être aussi vaste que ça. Donc, il y a ces liens présents, notamment avec Plotin aussi. Tout Portrait de mère dont je lisais des extraits a été, écrit en écho avec Plotin, mais pas du tout en lisant Plotin, avec cette espèce de principe qui est l'un, et avec certaines dimensions alchimiques aussi. Mais l'alchimie, on est toujours dans la transformation, on est dans l'eau, l'air, le feu, la terre. Donc pour moi, c'est l'essence, c'est le primordial, en fait, qui est le lieu, la source de la création. Alors, il y a de fait tous ces liens avec des éléments, sans doute spirituels, théosophiques, avec Boehme, avec Ammonius Saccas, et bien sûr, de l'autre côté, le visible et l'invisible, c'est aussi des dimensions scientifiques. Quand j'évoquais tout à l'heure la physique quantique, il y a des centaines d'années, la science, ou même à l'époque, disons, des pré-socratiques, qui étaient un peu comme nos scientifiques actuels, alors le visible se réduisait à très peu. Aujourd'hui, le visible est entré dans l'invisible. Alors, il y a même une dimension scientifique dans ce lien entre le visible et l'invisible. Il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi une dimension proprement scientifique. Le principe d'incertitude, on est dans l'invisible. Les scientifiques actuellement vont dans l'invisible, creusent au cœur de l'invisible.
On pense à la masse manquante dans l'univers, c'est-à-dire une grande partie de la masse de l'univers calculée est absente. Elle est comme, on la cherche.
On est au milieu du mystère. Donc, je ne pense pas qu'il y a un individu qui peut aujourd'hui dire ce que j'arrive à percevoir avec mes sens et avec mon intelligence. C'est tout le visible, et ça se réduit à ça, puis il n'y a rien d'autre que ça. Je pense que si on regarde juste l'histoire, c'est impossible, on ne peut pas dire ça, même l'histoire de la science. Là. Mm-hmm. Donc, on entre forcément dans cette quête de connaissance, on entre forcément dans des dimensions qui tiennent à l'invisible. Mm-hmm. Et je pense aussi aux voyants de Rimbaud, par exemple. Alors, le voyant chez Rimbaud, il me semble, est celui, évidemment, qui crée une vision de la réalité. Et la vision, c'est peut-être la rencontre du visible et de l'invisible. Et peut-être que l'image poétique, c'est la rencontre du visible et de l'invisible, justement, cette mise en tension des deux. Et quand on écrit une image poétique, c'est peut-être ça, ce choc entre le visible et l'invisible. En même temps, le voyant de Rimbaud, il me semble qu'il appelait aussi à l'inconnu. Très fortement. Bien sûr, comme on sait, c'était un peu faire table rase de l'écriture poétique telle qu'on la connaissait jusque-là. Mais plus loin que ça, c'est aller vers l'inconnu, non seulement vers des formes inconnues, mais vers l'inconnu de la vie. Le « je » est un autre, ben l'autre, c'est toujours l'inconnu. Mmh. Alors le « je », ce qu'on peut connaître, est tendu lui aussi vers l'inconnu. Donc, on est dans cette mise en tension un peu paradoxale, mais qui appelle à ça. Et voir, c'est aussi la lucidité qui est pour moi un élément très, très important. D'essayer d'être lucide, donc de voir à l'intérieur. Donc, il y a tous ces éléments, en fait, de faire de la poésie, de l'écriture, une démarche de lucidité qui m'apprend à voir, parce que pour moi, je ne vois pas au départ. Ce sont les mots qui m'apprennent à voir. Je suis le chemin qu'ils éclairent à mesure. J'écris jamais sur ce que je sais, mais toujours sur ce que je sais pas. Et ce sont les mots qui me disent cet inconnu-là.
Alors, oui, tu parles avec beaucoup d'éloquence du voir et de son dépassement aussi. Il y a une autre dimension dans la poésie qui est aussi importante et dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que c'est quelque chose peut-être que tu as moins développé. C'est que la poésie peut-être, oui, a rapport au voir et à l'invisible, mais a aussi rapport à l'écoute et à l'oreille et au chant. Le chant, d'ailleurs, est quelque chose qui est quand même évoqué à plusieurs reprises dans tes textes. Dans Jour de sable, tu parles, bon, pas nécessairement de lien direct, mais tu parles de ta mère et du piano, le piano qui a été détruit dans un incendie, je crois, sauf erreur. Tu dis, ce que je te demanderais, c'est est-ce que et tu parles, oui, et tu dis que aussi c'est important. Tu dis que t'as pas étudié le piano, t'as fait plutôt de la flûte et de la guitare. Bon, je parle de quelque chose de très biographique là, mais pour arriver à quelque chose qui concerne la poésie, c'est
d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas.
Non, c'est ça aussi.
Est-ce que le piano a brûlé là?
Ça
je
peut
sais
être
pas.
La pure fiction, c'est mais vrai. Oui. Faut pas. Mais ce que je dirais pour toi, quelle est la place concrètement du chant ou de la musique dans la poésie? Évidemment, j'aurais été porté à te demander est-ce que c'est une façon de retrouver la poésie, serait une façon de retrouver ce piano manqué ou détruit. Mais chose certaine, il me semble que la question du chant se pose, à mesure où il y a, et quand on t'écoute lire d'ailleurs, c'est très frappant, et je pense que non seulement parce que t'as une voix qui porte bien tes poèmes, mais aussi parce qu'on entend, mais on entend quelque chose qui est une musique qui joue pas sur des effets faciles, des allitérations très voyantes, des échos sonores, très, ça joue dans une sorte d'amplitude. Et est-ce que ça pour toi quand tu écris, c'est quelque chose de qui est une grande préoccupation ou si c'est d'abord l'image qui te préoccupe? Comment ça fonctionne? Est-ce que la musique dans tes poèmes, c'est quelque chose qui, pour toi, est important?
Forcément, parce que le sens est aussi créé par le son. Quand je dis que des mots tout à coup se rencontrent, ce sont aussi des sons qui se rencontrent. Quand on lit des poèmes à voix haute, par exemple, des textes qu'on vient d'écrire ou des inédits, on peut rapidement se rendre compte de certains éléments qui ne fonctionnent pas. Et là, c'est effectivement soit le rythme, soit la musique comme telle qui ne fonctionne pas. Et je pense que là aussi, c'est une sorte d'équilibre, en fait, d'essayer de faire en sorte que le son et le sens soient tous deux présents, mais sans forcément prendre le pas l'un sur l'autre. Mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas vraiment une façon là, d'écrire. Je pense à un livre, par exemple, Pierre Invisible, où là, il était sans doute plus dicté par le son. Je laissais encore davantage aller le son pour voir comment ça résonnait comme ça et le sens surgissait de là. Donc parfois c'est l'inverse, plus le sens, l'image poétique, et à d'autres moments ça va être davantage par le son.
Et en même temps, c'est une musique qui a visiblement beaucoup besoin de silence, puisqu'il y a beaucoup de pauses dans tes poèmes aussi. D'abord, les vers sont relatifs, quand tu écris en vers, ce qui est quand même la majorité de ton œuvre, quoi qu'il y a aussi des passages en prose, c'est un vers assez mesuré, assez court et avec des intervalles quand même assez nombreux. Donc,
pour faire entendre la musique, il faut mettre pour moi du silence qui va le définir, en fait. Et même chose pour la prose. La musique est pour moi pas moins importante que dans la poésie. C'est-à-dire qu'une phrase, c'est aussi une proposition musicale, en fait. C'est aussi une proposition de son, une proposition de rythme qui va, elle aussi, transporter le sens. Et je pense, si on entend parfois des lectures en langue étrangère, on se sent, et qu'on comprend pas, on se sent au bord de comprendre, justement, à cause de la musique, des sons qui sont là. On a l'impression que le sens est vraiment tout au bord. Alors, je pense que la musique, comme le silence, porte aussi.
Tu parles de langue étrangère, je ne sais pas, tu as demandé, ça me vient à l'improviste, mais quel effet ça te fait de lire ou de voir tes poèmes ou de les lire dans une langue étrangère, c'est-à-dire de les voir, que ce soit en anglais, en italien, en catalan, je ne sais pas dans quelle mesure, bon, c'est toutes des langues, le catalan, je ne sais pas si tu le parles un peu ou le pas vraiment, l'italien, pas peut-être vraiment. Un peu, il y a aussi des traductions en italien.
Oui, c'est ça, ça dépend des langues, Il y a des langues où là, c'est vraiment très loin, par exemple, en allemand, non, en russe. Là, c'est sûr.
L'allemand, par contre, un peu, non?
Mais ça reste loin du français, de toute façon. La construction syntaxique elle-même est quand même très, assez éloignée.
Ce que je voulais dire,
fait.
C'est que tu peux apprécier un peu la traduction allemande et ou en tout cas la.
Mais justement, quand je comprends pas une langue, je comprends pas une langue, c'est justement à ce moment-là que je vais demander au traducteur de lire, quand c'est possible évidemment, de lire à voix haute. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose avec le rythme, avec la musique, avec la légèreté, la lourdeur. On sent quand un vers ou un passage est trop lourd ou pas assez, presque instinctivement. Et de fait, il m'est arrivé de poser des questions et le traducteur me disait « c'est vrai, j'ai hésité sur ce passage-là ou ce mot-là. » Parce que la musique, mais quand on écrit, on le sait, on est au cœur d'une musique du sens, en fait. C'est aussi ça. Et le chant, bien sûr, est très important. On parle de la voix d'un écrivain. Alors, on dirait qu'au début, quand on commence à écrire, c'est comme une sculpture. Le bloc est brut. Et plus ou moins rapidement, on va arriver à trouver cette figure qui, dans la littérature, s'appelle la voix pour un écrivain. Et on va, en même temps, éprouver les limites de cette voix-là. Moi, je sais que, encore là, je ne veux pas être fixée dans une voix. C'est pour ça que j'essaie de faire trembler les limites, non seulement du langage, mais de ma propre voix, d'aller ailleurs. Et là-dessus, il y a, par exemple, des collaborations avec des artistes visuels qui vont être extrêmement importantes pour moi, justement pour faire trembler ces limites-là.
Donc, le travail avec des artistes peut modifier la voix, tu crois? C'est-à-dire, elle peut t'amener vers une autre voix?
Mais ça ne sera pas la modifier, ça va être un peu l'ouvrir. C'est encore ma voix, mais tout à coup, je ne me confine plus à ce que je sais, à ce que je connais de ma voix. Je vais à la rencontre d'un autre univers qui va me faire découvrir d'autres sillons de cette même spirale qui est ma voix, en fait. Donc, c'est encore ma voix, mais je ne l'aurais peut-être pas éprouvé de cette façon-là, ne serait-ce que par le lexique, très souvent. Ça dynamise le lexique, la façon de voir la réalité. C'est d'autres formes, d'autres couleurs. Donc là, j'éprouve un peu mes limites, et ça c'est important de, ben, pour moi en tout cas, de me secouer dans ce que je, fais aussi.
As-tu eu l'impression, et là je parle à partir du début, c'est-à-dire 1983, dans tout le cheminement, il y a eu très régulièrement des recueils, de chercher ta voix et à un moment donné de la trouver davantage. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'écrivains, parfois beaucoup de poètes écrivent pendant plusieurs années d'une façon un peu incertaine, tâtonnante, et tout à coup, ils ont l'impression de trouver le ton juste, quoi, de trouver quelque chose là qui est tout à coup leur voix personnelle. Est-ce que t'as, depuis le début, toi, tu avais déjà l'impression qu'il y avait... Parce que c'est sûr, il y a une sorte de tonalité qui traverse toute ton œuvre, ça c'est certain, qui se modifie parfois dans les formes, etc. On peut trouver des intonations quand même différentes, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de belle continuité aussi. Alors, je ne sais pas si... il n'y a pas eu de moment où tout à coup, dans
non,
un recueil
j'ai l'impression,
en particulier...
Non, j'ai l'impression en fait que chaque livre... peut-être définit un fragment de ce qu'est ma voix et que ma voix, bien qu'elle soit différente, par exemple, dans Un visage appuyé contre le monde ou Portrait de mère, mais pour moi, c'est la même voix qui va, comme je le disais, dans un autre sillon d'une même spirale, en fait. Même quand j'ai écrit dans d'autres genres, bon, l'essai ou ouais. Là, le récit, j'ai été moi-même étonnée tout à coup, de trouver assez facilement le ton. Donc, pour moi, le ton, c'est la voix à ce moment-là.
On n'a pas parlé de Soulage du temps, qui est aussi un très beau livre. Oui, c'est vrai que malgré que ce soit, enfin, sur la couverture un essai, on retrouve énormément d'intonations et de motifs aussi qui appartiennent à ta poésie. Le temps file beaucoup, ça fait presque une heure, et je vais ménager quand même un bon moment aux questions du public, mais j'aimerais, avant de vous laisser aussi poser des questions, parler un petit peu de Ravir les lieux et peut-être t'entendre en lire quelques pages. Quand même, Ravir les lieux en 2005, ça a été l'aboutissement d'un long itinéraire. Et est-ce que tu as eu, juste une petite question avant que tu en lises quelques pages, est-ce que, comme lecteur qui a lu toute ton œuvre, on a l'impression qu'il y a là comme une sorte d'une part de cristallisation, on retrouve tous les thèmes antérieurs qui sont apparus dans différents contextes, qui sont comme rassemblés, mais en même temps, dans une sorte de démarche qui les dépasse, et la notion de lieu, notamment, est importante ici, et il me semble qu'elle prend un relief et une densité aussi qu'elle n'a pas précédemment. Je dirais qu'avant, on avait plutôt des espaces, et là, tout à coup, il y a des lieux, il y a des villes, même qui sont, il y a des personnages aussi qui apparaissent dans des espaces et tout. Enfin, donc, est-ce que ça, tu l'as senti en l'écrivant, là, que tu faisais comme... il y avait eu une progression constante, mais que là, il se passait quelque chose de particulier. Et évidemment aussi, ce livre-là a eu une énorme reconnaissance, là, non seulement à cause du prix Mallarmé, mais...
Oui, disons que le début du livre s'est écrit assez rapidement, et j'ai senti assez rapidement que, par rapport à Portrait de mère, il y avait quelque chose de différent. Mais je le savais, dès que j'ai terminé Portrait de mère, je sentais que le livre suivant allait être assez différent. J'avais l'impression d'avoir exploré justement cette dimension et que j'irais ailleurs. Et rapidement, donc, j'ai constaté que le livre s'organisait autour de lieux, qu'il y avait cette thématique qui avait été effectivement jusque-là peu présente, en tout cas dans une dimension plus concrète que simplement spatiale, et que là, il y avait des éléments qui venaient. Il faut dire que c'est un livre qui, par la suite, s'est écrit assez lentement. J'ai écrit entre-temps Jour de sable et l'essai. Donc, je pense que ça a été nourri de différentes façons par ces autres livres. Et de fait, oui, je pense que les lieux ont été à partir de là, et dans mon prochain livre, c'est aussi le cas. Je continue cette exploration des lieux d'une autre façon, mais là, cet ancrage, en fait, a pris une autre perspective, oui. Mm-hmm.
Il y a un poème que je trouve particulièrement magnifique, mais c'est peut-être pas celui-là que tu vas lire, c'est celui sur l'attentat à la gare de Bologne en 1980, qui s'adresse à une poète, d'ailleurs, ou en tout cas
Oui, Margherita Guidacci.
Guidacci, ouais, qui est superbe. Mais en tout cas, toujours est-il
non,
que...
Non, c'est pas celui-là.
Non, c'est pas celui-là. Bon, à vous le lirez, ceux qui n'ont pas lu le recueil, vous le lirez. Voilà.
Non, je vais lire justement les premiers poèmes qui sont quatre poèmes de la première partie, extrait donc de Ravir les villes. Oui, mais la section s'appelle Ravir les villes. Extrait de Ravir les lieux. Merci. D'ici bouge la lumière. Regarde le vide lourd sur l'épaule, éparpillé parmi les fenêtres. Cherche ce que tu appelles, l'impossible mosaïque silencieuse du voyage et la lampe qu'on dirait brûlée par le temps. Regarde seulement la pièce où résonne ta vie, l'ombre jamais vue, visible maintenant dans les yeux du soir. Entre toute terre, le centre, la maison, plus au centre le jardin, sillon que tu racles, bêche de lame tirant vers toi le soleil, les eaux de pluie sur les pétales à peine apparues. Au cœur de ce monde, la chair noircie du nom, théâtre des choses que tu livres au vent. Quel oiseau naît de l'oiseau blessé? Tu refais ta demeure, chaque jour, on imagine le sol sous la main, l'arbre haut des saisons, le ciel planté dans la fenêtre, le geste superbe. Ici l'escalier d'où monte et redescend l'histoire, en ce détail que tu incarnes. Des mots poussés derrière le silence. Peu importe l'espace qui te laisse à toi-même et flotte entre ces murs le craquement des objets, tu vois la fenêtre, là remue le monde, un vent d'aube et les notes du piano lentement tournoient. Tu poses le pied, c'est la mer qui te dénoue. Tu oublies presque la plaie, la pierre gisante sur le fil de la mémoire. Depuis des années, tu regardes les branches comme des racines qui s'approche enfin. Écoute comme une ombre s'avancerait, la mer, l'inlassable vol des vagues qui claquent contre la terre. Écoute ce monde devenu monde à force de résonner parmi les ans. Ton enfance est cette matière fossile, un vœu du temps qui brûle à mesure. Écoute, et l'oiseau fuira encore, brisant tes châteaux sur le sable de cette côte de l'Atlantique, où tu vis s'en aller l'aube et revenir partant de marée.
Merci Hélène. Bon, je pense que ça termine ce dialogue, en tout cas au moins pour ce qui est de moi, mais je pourrais intervenir si le goût m'en vient. Mais je suis sûr que dans tout ce public attentif, il y a peut-être des questions. Alors, je vous rappelle qu'il faut vous approcher du micro. Alors, ça demande un petit peu plus de courage que de... mais... faut pas être trop timide.
Ou peut-être que le micro peut s'approcher des gens, non?
Je sais pas si le micro... Est-ce que le micro est mobile? Je sais pas.
Oui,
mais
c'est plus facile comme ça.
Ah, ça faciliterait beaucoup les choses.
Ça fait moins commission.
Oui. Évidemment, c'est encore plus... c'est encore plus... Évidemment, avec un micro sans fil, c'est mieux, mais...
J'arrive pas à imaginer comment on peut traduire ta poésie. J'arrive pas à figurer, ça doit être complètement autre chose, il me semble. Les mots peuvent pas avoir la même musique, comme tu disais. Je comprends l'idée de la musique que tu disais, mais ça doit être autre chose.
Ben, justement, je pense qu'il faut que ça soit autre chose pour que ce soit, disons, une bonne traduction. C'est-à-dire qu'il faut pas forcément chercher à refaire du français en allemand ou à transposer. Moi, il me semble qu'un bon traducteur va être celui qui va traduire en allemand un peu ce que j'aurais écrit si moi-même j'avais écrit en allemand. Et même chose pour chaque langue. Et là, il me semble que, en tout cas pour les langues que je connais, avec lesquelles j'ai pu quand même avoir un lien, un contact avec le traducteur, c'était souvent le cas. À un certain moment, bon, il faut, même en tant qu'auteur, pas trop être attaché, là. C'est des fois un peu difficile. Là, par exemple, va sortir la traduction en anglais de Jour de sable. Il est déjà traduit en serbe. Bon, en serbe, je le sais pas, j'ai aucune idée. C'est peut-être très bien, c'est peut-être pas du tout. On m'a dit que c'était bien, mais peut-être qu'on a voulu être gentil. Mm-hmm. Alors, en anglais, c'est vrai que là, il y a eu un travail avec le traducteur qui était très intense, et même dans la ponctuation. Puis à un moment donné, on se dit, ben, il faut que je le laisse aller. Donc, je laisse aller, et puis s'il y a un bon traducteur, il va traduire comme si moi j'avais écrit, si j'avais écrit en anglais, en fait. Et à ce moment-là, eh bien, le livre va résonner pour des lecteurs de la langue anglaise qui sont habitués de lire dans cette langue-là. Donc, je pense que la pire chose, c'est de vouloir trouver, par exemple, des équivalences ou des choses comme ça. Il faut vraiment ouvrir le réseau et s'abandonner.
Faire confiance.
Faire confiance, s'abandonner, oui.
Oui, oui, oui.
Moitié-moitié, le micro s'avance. Et...
Mais il fait une moitié du chemin. Oui.
Ça m'intéresse, oui. Le travail que vous avez fait avec des artistes, oui. ça concerne...
Alors,
que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, tout à fait. Ce sont des livres d'artistes. J'ai eu la chance, et je l'ai toujours aujourd'hui, de collaborer avec des artistes... visuel. Et bon, le travail, la collaboration se fait de différentes façons à chaque fois. C'est-à-dire là aussi, on invente une rencontre concrète au cœur de nos démarches artistiques, et le lieu de cette rencontre-là, ça s'appelle le livre par la suite. Il y a eu différents types de rencontres comme ça. J'ai de mes livres, par exemple, qui ont été accompagné d'œuvres, par exemple, de Marc Garneau. Alors là, les textes étaient déjà écrits. J'allais dans l'atelier de cet artiste visuel, et on choisissait des tableaux qui étaient déjà peints, et on les mettait dans le livre pour qu'il y ait bien sûr une résonance. Ça, c'était pas un livre d'artiste, ça c'était un tirage courant. Livre d'artiste. Alors, je donne par exemple un exemple très récent. Là, en ce moment, je fais un livre d'artiste avec Stéphanie Béliveau. Alors, j'avais, moi, des poèmes, mais je connais très bien le travail de Stéphanie. Je vis avec certains de ses tableaux, certaines de ses gravures, et son travail résonne en moi depuis quand même longtemps. Donc, il y avait déjà cette rencontre, cette complicité d'univers que nous savions toutes les deux. Alors, il y a des textes et... il fallait bien sûr que Stéphanie trouve elle-même une résonance à partir de ces textes-là. Et elle a choisi et a fait des dessins, des gravures, des tableaux, etc. à partir de ces textes-là, tout en restant bien sûr dans son propre univers, mais en résonance avec les textes. À partir de ce travail-là, moi, à un certain moment, ben, il y a de son travail qui m'inspire tout particulièrement. Alors, ben, je bifurque un peu et je peux écrire un texte à partir d'un de ses dessins, d'une de ses gravures qui me parle particulièrement. Et donc, je poursuis un peu le travail de cette façon-là. Par la suite, bien sûr, là, c'est tout le processus du livre d'artiste. Il y a d'autres types de projets. Par exemple, là, un livre avec Carole Bernier qui est tout récent. On commence seulement à le faire. Alors, on a voulu faire de ce livre un lieu de rencontre. Alors, avec Carole, je vais lui envoyer par la poste, la bonne vieille poste, des textes, soit lettres, poèmes, fragments de prose, etc., en choisissant les papiers. Parfois, moi-même, on a décidé qu'elle pourrait tout à coup écrire et moi que je pourrais tout à coup, dessiner, le mot est grand, mais bon. Et elle me retourne après avoir lu le texte que je lui ai envoyé. Elle m'envoie soit un objet, soit un dessin. Alors, ça peut être un dessin, ça peut être une boîte vide, n'importe quoi. Donc, il y a cet échange. Donc, on a un dialogue, disons, dans la matière. Moi, à travers le langage, et elle, à travers son propre matériau. Et là, comme le projet est vraiment en cours, là, il est vraiment tout nouveau. Alors, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Alors, on verra où on arrivera avec ça. Mais l'essentiel, pour moi, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien sûr d'avoir cette façon d'ouvrir mon langage, ma voix, d'aller chercher, moi, dans cette rencontre-là, autre chose que je ne pourrais pas aller chercher autrement qu'à l'intérieur de ce lieu où on crée finalement un objet, mais l'objet est le témoin de l'échange qu'il y a entre l'artiste et l'écrivain, en fait. Et bon, c'est pour ça, comme je disais, pour moi, c'est pas du tout accessoire, c'est vraiment des lieux, j'en ai fait plusieurs, j'ai eu la chance de faire de très belles, de très grandes rencontres avec des artistes à partir de là, et pour moi c'est tout à fait essentiel, je mets pas les livres d'artistes là, dans une petite case à part, là. Mm-hmm. Pour moi c'est vraiment dans ma démarche.
Je peux intervenir. Bon, je pense que plusieurs de ces artistes-là sont aussi des artistes européens dans plusieurs cas, en tout cas pas toujours, mais dans certains cas. Mais plus généralement, quand même, je dois parler de ton lien avec l'Europe, qui est quand même important, la France, la Belgique peut-être surtout, mais enfin c'est plus large également. Ta participation, d'abord ta publication là-bas, mais tu as aussi une très importante réception en Europe. J'ai beaucoup de comptes rendus de tes recueils. Pour toi, ce volet européen, qui est plus qu'un volet, c'est vraiment une dimension fondamentale, c'est important pour toi par rapport au Québec. Est-ce que tu te vois entre deux pôles, si on veut? C'est-à-dire d'un côté, qui est quand même une très grande présence.
Oui,
c'est ça.
Mais très non.
Grande présence. Mais comment t'en es venu? Bon, c'est une rencontre au hasard et les gens de la différence pour que tu publies à la différence.
J'allais déjà depuis 87. Oui, j'allais déjà depuis 1987. Il me semble, au marché de la poésie à Paris, qui a lieu Place Saint-Sulpice, parce que je viens de voir Carole Bernier, justement, alors j'ai révélé notre projet.
Il faut aller à Paris au moment du marché de la poésie.
Donc oui, le marché de la poésie, effectivement, c'est très, très intéressant, très important. J'y allais déjà en tant qu'auteur. Ensuite, bon, j'ai commencé à publier là-bas avec les éditions que je dirigeais. Je suis allée aussi en 1992 ou 93, le directeur des éditions de La Différence, que je connaissais pas du tout, a demandé à me rencontrer, m'a invité à prendre, était-ce un café, je pense. Et là, on est allé, c'est ça, et il m'a demandé de lui proposer un manuscrit. C'est comme ça que ça s'est fait. Je connaissais pas du tout, ni lui, ni Nicolette Lambrix, qui dirige avec lui les éditions. Donc, c'était en 93. À ce moment-là, je commençais à écrire Sans bord, sans bout du monde. J'ai dit, ça dépend si je me rends au bout du livre, évidemment, on sait jamais. Et en 94, je lui ai proposé Sans bord, sans bout du monde, et il a par la suite publié. Alors, ça a été vraiment une... Je connaissais déjà les livres de La Différence, mais je dois dire sincèrement, j'aurais pas fait une démarche ou envoyé le manuscrit ou quelque chose comme ça. C'est lui qui m'a demandé, et j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là, parce que c'est un très bon éditeur. Il y a toute la dimension humaine également. Il y a vraiment un rapport de confiance pour eux, un appui aussi envers mon travail qui est très précieux. Et chose bien sûr très importante pour moi, les livres sont diffusés ici au Québec, sont distribués ici au Québec. Et certains livres, par exemple, tous les entre 95 et 2000, les livres que j'ai fait à La Différence sont repris dans Monde fragile, chose frêle, des extraits dans D'argile et de souffle. Alors, mais pour moi, c'est pas, comme je le disais un peu à la blague, mais c'est vrai, je sépare pas l'ici et l'ailleurs. Pour moi, c'est cette maison qui a des fenêtres, il y a une fenêtre qui est là, et ça fait partie pour moi de mon paysage littéraire. Mmh, mmh.
Moi, j'aurais une question toute pratique, toute concrète. Comment travailles-tu?
Ah, je vais la poser celle-là. Oui.
Je dirais la première chose, je travaille sans règles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Puis quand je donne des ateliers de création, des fois, cet élément-là est effectivement assez important. On veut concrètement savoir, comment organiser, comment s'organise tout ça. Moi, j'ai toujours, si par exemple, je disais, j'écris entre telle heure et telle heure, avec tel lieu, avec telle chose, j'ai l'impression que j'empêcherais tout ce qui est possible et qui n'est pas ça. Et si je me retrouvais, par exemple, comme on dit, en panne d'inspiration, peut-être que c'est juste parce que ce ne serait pas le bon moment de la journée tout à coup. Alors, on dirait que je ne veux pas, moi, enfermer. Ceci dit, le plus souvent, ça va être soit le matin, soit le soir. Et là, il me semble, j'entends Pierre qui va dire, oui, le commencement, puis la... et la fin, alors c'est un peu ça, j'imagine. Alors, le moment où tout commence et le moment où tout s'apprête à recommencer. Je ne sais pas, c'est deux moments qui me semblent propices. Peut-être que l'après-midi, c'est trop pour moi, mais là, c'est autre chose. C'est justement l'extérieur, là, toutes les sollicitations, les choses, les traductions, tous les projets, les téléphones, etc., les courriels, tout ça. Et alors que le matin me semble bien propice à ça, il faut dire que je vis aussi à la campagne, dans un lieu où regarder la lumière, bouger le paysage, le matin, c'est magnifique, et même chose en fin de journée. Alors là, c'est vrai que c'est propice aussi à ça.
Je crois t'avoir déjà entendu dire, mais tu me corrigeras si je me trompe, que tu peux écrire directement tes poèmes à l'ordinateur. Ou tu les écris pas, c'est pas manuscrit d'abord. Enfin, mais là...
Tout est possible.
Je veux dire que pour moi, c'est quelque chose d'étonnant, mais enfin, ah, oui. C'est concevable. Probablement qu'il y en a peut-être d'autres qui le font, je sais pas. Mais...
oui, je sais. Oui, c'est tout à fait possible de me mettre devant l'ordinateur et d'écrire des poèmes. Évidemment, pour les voir et les toucher rapidement, là, j'imprime. Alors là, c'est évidemment une quantité de papier. C'est ruineux, mais je recycle. Alors, mais j'ai besoin. Juste l'écran, ça ne me suffit pas. Mais en même temps, par moment, on dirait que ça me permet d'avoir plus rapidement une distance que l'écriture à la main. Car là, ça dépend. Je me souviens avoir fait c'était un livre d'artiste avec une artiste visuelle qui faisait un travail avec des fusains. Et c'était juste des traits de fusains. C'était très fin, très léger, très fragile. Et pour ça, je me suis acheté une vieille tablette de papier, presque le papier oignon, très très fin. Et j'ai écrit tout le livre là-dessus. C'est un livre qui s'appelle Passerelle-poussière. Et pour moi, il fallait que le support soit parfaitement accordé à ce projet-là. Alors, oui.
Peux-tu écrire dans les lieux publics, mettons l'avion ou évidemment un café?
Non, ça non.
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 Ah bon,
ben pas c'est... jusqu'à présent.
Bon,
là, ça commence en voyage, alors, parce que comme, évidemment, voyageant beaucoup, j'ai vu tout le temps où je pouvais pas écrire parce que je voyageais. Alors là, j'ai commencé à écrire en voyage. Et d'ailleurs, mon prochain livre est aussi autour un peu du déplacement, de tout ça. Mais dans des lieux d'agitation... Pour moi, comme café, tout ça, ça non. Le plus, ça va être une chambre d'hôtel ou un avion, non. Mais je prends des notes, là, comme tout écrivain. Ça, je peux prendre des notes partout, bien sûr. Quoique encore là, je ne suis pas quelqu'un qui note énormément. C'est un rapport sans doute à la mémoire, parce que je pense que la mémoire a besoin de l'oubli. Alors, c'est là, à l'intérieur de moi, et je fais confiance au processus. Je me dis que si ça tient, ça va être encore là quand je vais me retrouver soit devant l'écran ou devant... la page blanche. Et je pense quand même aussi que qu'il y a une sorte de transposition nécessaire entre ce qui nous vient à partir justement du moment où on saisit une image ou une réalité, qu'on la transpose dans le langage poétique. Alors toute cette dimension d'oubli, pour moi, c'est comme si mon corps était aussi ce laboratoire ou cette éprouvette. Alors je laisse les impressions baigner dans cette éprouvette qui est la mémoire, et par la suite je vais me mettre à l'écriture.
Mm-hmm. Oui, oui.
Vous avez fait référence à des approches en théologie, philosophie. Est-ce que vous feriez des liens entre poésie, rêve et psychanalyse?
Oui, je vais juste préciser, c'était théosophie, c'était pas théologie, mais pour moi c'est assez, surtout dans ce registre-là. Oui, le rêve pour moi fait partie, j'allais dire, de la réalité, ce qui est aussi banal à dire, mais c'est aussi une dimension de l'invisible qui est extrêmement porteuse. Je pense que c'est comme si on était en dialogue, et pour moi, le rêve est une partie de ma voix, de ma réalité, donc c'est aussi, disons, un interlocuteur. Maintenant, pour la psychanalyse, c'est autre chose. En tout cas, c'est très personnel, parce que il y a des écrivains qui répondraient spontanément oui, effectivement. Moi, ça m'a jamais particulièrement attiré. Probablement parce que j'ai besoin d'une certaine zone d'inconnu. Il y a des choses que je veux garder dans l'inconnu et explorer avec autre chose que ma raison. Et peut-être qu'en ce sens-là, la psychanalyse est peut-être trop raisonnable pour moi. J'irais plutôt vers d'autres démarches, j'imagine, là, mais pas vraiment. Et puis peut-être parce que pour moi, c'est encore la parole, c'est encore le logos, c'est encore la... Et pour moi, la parole, je l'investis dans l'écriture.
Eh bien, monsieur, oui.
Oui, on vous a décerné, je crois, le prix Mallarmé, qui est un prix français, c'est ça?
Oui.
Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous trouvez que la poésie québécoise a une coloration particulière par rapport à la poésie française?
Oui, en fait, le prix Mallarmé est un prix francophone, c'est-à-dire qu'il y a 30 jurys de différents pays de la francophonie, donc c'est pas réservé qu'aux écrivains, c'est pas qu'un prix français. Oui, moi, personnellement, je trouve la poésie québécoise extrêmement riche, extrêmement féconde, extrêmement intéressante. Je vois, par exemple, ce qui s'écrit actuellement, et je trouve qu'au nombre de générations qu'il y a ici et qui écrivent en même temps, à partir de Fernand Ouellette, par exemple, je pense à Fernand Ouellette, Paul-Marie Lapointe, Jacques Brault, jusqu'aux plus jeunes et jusqu'aux explorations qui se font dans les formes, en fait, de revues littéraires. Moi, ça me semble extrêmement riche, extrêmement porteur, et il y a des résonances qui sont là aussi en France. Il y a une méconnaissance, je pense, de la poésie québécoise. C'est difficile, même moi, quand je connais, par exemple, si par exemple des gens dans des jurys de prix, je vais proposer des livres d'auteurs québécois pour faire connaître cette poésie-là, et les gens sont vraiment très très impressionné. Il y a beaucoup de démarches très fortes, très singulières, sans qu'il y ait de tendance générale de mode qui se dégage particulièrement. Alors ça, je pense que c'est un phénomène qui témoigne quand même de la grande richesse de la poésie québécoise. Bien sûr, elle est différente de la poésie française, même s'il y a certains liens qui peuvent être fait. Mais moi, je dis toujours en même temps, il me semble que nous, on a la chance de, disons, du peu d'histoire. Écrire quand il n'y a pas Rimbaud derrière soi, devant soi, ou peu importe, il me semble, moi, je trouve que c'est aussi une chance. Des fois, on se dit, ben, on n'a pas une histoire comme les Français, notre histoire de la poésie, de la littérature, elle est jeune, tout ça. Mais ça donne aussi lieu à des explorations, à des possibilités qui sont très grandes, des façons d'oser et de aussi de donner naissance à des œuvres jeunes et très fortes, même si elles sont jeunes. Alors ça, oui, je trouve que c'est extrêmement dynamique, sans bien sûr parler de tous les lieux où la poésie a un écho et trouve des lecteurs.
Écoutez, on pourrait poursuivre sûrement. Ce que je propose, c'est terminer en lisant, c'est une page que j'avais pensé demander à Hélène de lire dans « Sous l'arche du temps », qui est un peu une sorte de... fait le tour un peu d'une démarche, écoute, plusieurs aspects. Alors, je lis ce passage. Ce que j'écoute, le vent qui se pose sur les feuilles des arbres, le souvenir, Bach, Chopin, Schubert, la pluie certains jours, la voix presque inaudible d'une pure présence. Ce que déploie le poème, l'émotion du silence, le risque, les traces que laissent les heures répétées. Ce que je lis, les instants, ce qui les relie les uns aux autres, les relie au réel et à ma vie, à ces mondes recommencés chaque jour à travers la cohérence et la confusion, la mémoire, la détresse d'une voix proche. Ce que c'est le poème, un nom jamais retenu, l'impossible au cœur de l'être, l'ordonnance des choses, bouleversement, chute, fragmentation. Ce que je cherche à écrire, le désert et l'éblouissement, la mémoire rejaillie, une voix devenue soudain étrangère. Je dépose quelques mots devant une porte que la vie tient fermée. Mais je suppose que la porte peut parfois s'ouvrir et qu'elle s'ouvre même très souvent. Alors, un grand merci à Hélène Dorion pour cette...
C'est moi qui
et,
vous remercie.
Et à vous
merci
aussi,
Alors... Merci.
Alors, merci donc et à la prochaine. Je vous rappelle que les rencontres du CRIL ont lieu environ une fois par mois. Donc, vous verrez la publicité pour les prochaines. Là, j'ai pas le programme sous les yeux, mais bienvenue aux prochaines rencontres.